Vos papiers. Poète. Vos papiers.
Bonjour à toutes et à tous, Guy Housset dans Rêve Poème pour Radioactive. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète suédois qui s'appelle Erik Axel Karlfeldt. Erik Axel Karlfeldt est né dans notre siècle, dans le siècle d'avant, mais son enfance et sa jeunesse ont été sans histoire. Il a passé tous ses examens scolaires, il a réussi brillamment. Et en 1898, il enseigne puis devient bibliothécaire. Dès son premier recueil de poèmes, intitulé « Chansons du désert » et « Chansons d'amour », tous ces thèmes sont en place. Il exalte non sans réminiscence romanesque la grande nature à demi sauvage du Nord. Erik Karlfeldt a daté de 1898, conçoit son principal personnage poétique autour d'un individu appelé Fridolin. Qui est ce Fridolin? Ce Fridolin qu'il définit comme un homme instruit, d'origine paysanne, qui est revenu au monde afin de creuser la terre après avoir perdu tout son temps à ne fouiller que dans les livres, dit-il. Les chansons de Fridolin, éditées en 1898, forment un curieux recueil poétique où joie de vivre, voire jovialité populaire et mélancolie se mêlent. Le Jardin d'Éden de Fridolin, paru en 1901, introduit un élément nouveau qui a plus que tout contribué à la gloire du poète. Un certain nombre de pièces s'attachent à y décrire des célèbres peintures murales de Dali Carli, ou plutôt à en restituer en vers libre l'atmosphère et la tendresse. Devenu célèbre, il compose deux recueils encore à la gloire de la sagesse populaire, Flore et Pomone en 1906 et Flore et Bellone en 1918. Restent les pensées et propos, et ce corps d'automne en 1927, où l'inspiration religieuse a définitivement pris le dessus. À quoi bon déplorer? La vie et la mort sont de l'homme. Résignons-nous à nous réconcilier avec celle-ci, comme nous avons spontanément tant aimé celle-là, dit-il. Nous avons aimé, lu, chanté et vécu. Ce dernier recueil de poèmes avait décidé les augures à décerner à Erik Axel Karlfeldt le prix Nobel. Mais il le refusa, par modestie. C'était un homme modeste, il refuse le prix carrément. Et ce n'est qu'après sa mort en 1931 qu'il lui fut acquis. À juste titre, s'il faut le dire, il reste un artiste qu'il sut faire chanter les vers suédois comme bien peu de ses compatriotes, un homme du Nord dont l'inspiration ne se pouvait concevoir sans la grande nature des sons, des parfums et des couleurs. Le premier poème que je vais vous lire s'intitule « Le printemps de l'automne ». Voici éclos ce fier printemps, ce printemps que les faibles appellent l'automne. La lande maintenant est rouge de bruyère. La face du torrent est blanche comme lys. Elle a été chantée, la dernière chanson par la voix frêle et féminine de l'été. Voici que monte aux escaliers de la montagne la tempête dans son sombre manteau. Maintenant que sont morts tous les enfants des rêves, qui furent enfantés par les jeux du printemps, comme le tulle rouge des feuilles du buisson que fait pâlir la première nuit sombre, cependant que rejoient tous les sentiments forts, comme le fruit de l'églantier ou le chêne du coteau, et chaudement chuchote au gel du vent du nord, parlant d'épanouissement et de maturité. Mon chant, pour le meilleur, ivre, s'est envolé dans les couleurs et les parfums, les lumières des prés, et c'est assez doux que d'aller visiter les moissons de miel des cœurs à l'unisson. Ivre de cette douceur, je veux dès maintenant, loin de ces vains désirs, établir ma demeure et reposer tranquille sous de solides poutres et non plus sous les tiges de floraisons fragiles. Les souvenirs futiles, comme un bienfait s'estompent, comme un bienfait aussi, tu restes auprès de moi, pour que ce grand amour se passe du soleil lorsque viennent les jours de froid. Entends siffler les rudes vents du ciel, leur rythme solennel pour les couples fidèles. Nous sourions lorsque tremble la terre, puisque notre bonheur est bâti sur le roc. Chez Karlfeldt, l'automne est toujours présent dans toute son œuvre. C'est un symbole. La saison où l'homme commence à cesser les jeux de l'amour et les vagabondages et à se pourvoir d'un logis et à brasser sa bière. C'est une faiblesse de ne pas pouvoir se trouver mûr pour la vie, écrit-il. Deuxième poème, « Tes yeux sont des feux », un poème un petit peu plus court. « Tes yeux sont des feux et mon âme est des toupes. Détourne-toi de moi avant qu'elle ne s'enflamme comme meule de charbon au-dedans de moi-même. Je suis un violon qui possède en sa boîte toutes les chansons du monde. Tu peux lui faire jouer l'air que tu veux. Détourne-toi de moi. Oh, tourne-toi vers moi. Je veux brûler, je veux me rafraîchir. Je suis désir et je suis nostalgie. Je vis sur la frontière entre automne et printemps. Toutes les cordes sont tendues. Laisse-les chanter, ivres et folles, dans un ultime et magnifique chant, toutes mes années d'amour. Tourne-toi vers moi, détourne-toi de moi. Brûlons tous deux comme un soir d'automne. La joie de la tempête transperce notre bannière de sang et d'or. Jusqu'à ce que le vent s'apaise et que je vois tes pas s'enfuir au crépuscule. Toi, la dernière à suivre, ma brûlante jeunesse. Tout à l'heure, je vous parlais de Fridolin. Et l'univers de Fridolin, dans ses poèmes, est toujours présent. C'est l'univers d'un homme de la terre. La lande, dans le premier ouvrage, apparaît seulement pour servir de toile de fond à un champ de lin prospère, aux fruits des champs de froment et au suc des champs de baie. Fridolin lui-même est intégré dans la communauté régionale. Il va à l'Assemblée communale et finit même par s'élever au rang de membre du Parlement. Peut-être cela tient-il au fait que Karl Felt, lui-même, à cette époque, avait cessé de tirer le diable par la queue et espérait s'installer solidement dans la société. Ce cadre crée une limite poétique qui freine le romantisme et l'excès de sentiments. Même dans un fougueux poème d'amour, comme celui que je viens de vous lire, à savoir « Tes yeux sont des feux ». Troisième poème, un petit beaucoup plus long, il s'intitule « Maladie ». Maladie, c'est sa fin de vie pratiquement, qu'il évoque dans une très jolie prose, une prose versifiée. « Maladie, je vogue vers un lointain, un très lointain pays. J'aperçois un fanal qui dessine sur l'eau des raies de lumière. Sur le rivage vit un peuple inconnu, parlant un langage ignoré. » Ils m'invitent à entrer dans leur salle des fêtes, qui resplendit d'or et de pourpre. Mais le vent qui s'infiltre parmi les colonnes est frais, et j'ai froid dans mon âme et dans ma chair. Ils m'abandonnent, je reste seul, et la nuit tarde et m'angoisse. Tard dans la nuit, je demeure étendu, et le froid me pénètre. Mes yeux, fatigués, contemplent un sphinx bleu qui repose. Doucement, comme un chat, il se lève et vient toucher mon oreiller. La nostalgie qui loge dans mon cœur, je ne sais pas où elle veut fuir. Ce n'est pas au vert pays des hommes, et ce n'est pas vers le ciel bleu. Ce n'est pas vers la vie inquiète, ni vers le sommeil de la terre. C'est une nostalgie en soi, solitaire. Une nostalgie pour la nostalgie. Je vois une blanche azalée posée près d'une giroflée. Il y a quelqu'un assis près de mon lit, quelqu'un qui me veille. C'est comme pour les nuits de rougeole, il y a longtemps, si longtemps, qu'il est doux de se réveiller et de ne jamais être seul. Qu'il est doux de s'assoupir et de dormir jusqu'au jour, sachant que tu ne me quitteras pas. Mais, maman, tu es morte, n'est-ce pas? Maintenant, ciel et terre vacillent, mais une chose est sûre et ferme. J'ai entendu une parole ineffable près d'une porte indescriptible. La porte s'est refermée et j'ai fait demi-tour, par la voix douloureuse par où j'étais venu. Comme un vent mélodieux, elle chantait encore cette parole qui s'est envolée. Si jamais j'oubliais dans ma bruyante vie ce son, parvenu de l'extrême limite de l'audible, je me souviendrai tout de même pour la prochaine fois que la voix résonnait comme la voix d'un ami. Une mélodie forte et pure me parvint de la montagne. Caressante, elle résonne comme le carillon du ciel. J'entends une voix tendre et claire, « Reste, ne nous quitte pas. » À grand-peine, j'ouvris mon œil. Ce n'était pas un monde étranger. Les cloches de Pâques sonnaient, un enfant pleurait à mon chevet. Je pourrais donc rester, je peux donc m'attarder. Je connais à présent le prix de ma rançon. Comme à travers un voile déchiré, je vois les années de grâce qu'il ne faudra pas gaspiller. Sans doute n'étais-je pas mûr, je n'en étais pas digne. Et si même j'ai souffert, si j'ai eu du plaisir, il reste à faire avant que de partir, c'est créer du bonheur à partir de ses fautes. Dans ce poème extrait de Flore et Bellone, il y a beaucoup de figures de style, mais l'auteur, Karlfeld, fait aussi preuve d'une inquiétude nouvellement éveillée, à savoir la mort. Ses études sur la poésie baroque avaient donné à Karlfeld le goût de l'expression dense, pleine de sens, et celle-ci prend dans certains passages de ce poème l'aspect de la parfaite construction classique. Cette technique peut l'entraîner à une demi-obscurité. Cette orientation vers la simplicité du style se retrouve dans ce poème « Maladie ». Le dernier poème que je vais vous interpréter s'intitule « Jeune amour ». Son jeune amour, elle m'a donné, un soir, dans la fraîche forêt. La campagne embaumait au crépuscule et le coucou sonnait les heures. Sur des sentiers parmi les broussailles, jusqu'au sombre domaine où règnent les dryades, oubliant le monde, nous allâmes tous deux en un rêve juvénile et présomptueux. Dans tous les recoins de la nuit, un air nuptial monta de cordes frémissantes. Des sapins et des églantiers, il monta vers les coteaux semés de trèfles. Dans la sombre nuée brillait un point d'argent. L'étoile de Vénus regardait hiératique. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, et nous sentions nos cœurs battre dans nos poitrines. Nous sommes descendus tous deux dans la vallée où le ruisseau s'étire silencieusement. À la source, nous bûmes dans un anap d'écorce pour rafraîchir nos lèvres brûlantes de baisers. Puis, à travers un pré où fleurissait l'orchis, lentement nous allâmes, étourdis par l'été, et, la tête remplie de tumulte et de fièvre, nous avons tous deux contemplé les étoiles. Dans ce poème « Jeune amour », l'ancien monde populaire suédois, avec son empreinte très luthérienne, fait place au saint plaisir de la vie et de l'amour. Karlfeld ne vénère plus tellement Dieu, mais embrasse aussi les filles et s'enivre de leurs fêtes. Lorsque Karlfeld, dans ses chants de la lande, se réclame de la vieille conception populaire. Mais cela n'empêche pas que sa joie de vivre s'accordait bien avec le manifeste des années en général. À cela s'ajoute le thème de l'amour vaillant. Avant de se quitter, j'aimerais que nous écoutions ensemble une chanson d'Hubert Félix Thiéfaine, En remontant le fleuve, une longue chanson de 5 minutes à peu près. C'est une introspection sur la vie, une introspection comme aimait le faire Karlfeld dans ses poèmes. À bientôt.
Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, où la faune et la flore jouent avec les langueurs de la nuit qui s'étale ivre de sa moiteur. En remontant le fleuve, où d'étranges présences invisible trouble nous guette et murmure en silence. Où sale et fatigué, sous les ombres englouties, nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit en remontant le fleuve. En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des clameurs et des foules insipides, où nos corps épuisés sous la mousse espagnole ressemblent au marbre usé, brisé des nécropoles, où nos tonniers des brumes dans l'odeur sulfureuse des moisis sur des pavés aigres et marécageuses, nous conduisons nos âmes aux frontières du chaos, vers la clarté confuse de notre ultime écho, en remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des aveux de nos désirs avides, jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime peur, en remontant le fleuve, vers cette éternité, où les dieux s'encanaillent en nous voyant pleurer, où les striges en colère, au sourire arrogant, manipulent les rostres de notre inconscient, en remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des remous. Sanglots stupides ou cruels et lugubres, au bout des répugnances, nous fuyons les brouillards gris de notre impuissance, vers les feux de nos doutes, jusqu'au dernier mensonge, dans la complexité.